le président de l'École des hautes études en sciences sociales, Pierre-Cyril Auqueur, qui est retenu par ses obligations de président du conseil d'administration, m'a demandé d'ouvrir la première conférence Claude Lévi-Strauss. Le faire est pour moi un honneur et un plaisir. Cette conférence, comme vous le savez, est le résultat d'une initiative lancée par le comité éditorial de la revue L'Homme. Mais une fois la décision prise, il a fallu passer aux travaux pratiques, organiser, associer des partenaires et trouver les moyens nécessaires. Ce qui n'a pas toujours été facile, vous vous en doutez. Aussi convient-il en premier lieu de remercier celles et ceux, personnes et institutions, qui ont apporté leur concours pour que nous puissions nous retrouver ici ce soir dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre et écouter ce que Madame Aparecida Vilaça est venue nous dire. Merci donc au Collège de France et en particulier à Philippe Descola, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature. Merci au laboratoire d'anthropologie sociale ainsi qu'au Centre d'anthropologie et histoire des mondes anciens, au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, au Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université Paris-Nanterre, à la Fondation Martine Aublé, Musée du Quai Branly. Merci à l'École pratique des hautes études et enfin à l'institution que je représente, l'École des hautes études en sciences sociales. Pourquoi une conférence Claude Lévi-Strauss? Les initiateurs qui ont souhaité, je les cite, une conférence annuelle avec le but de renforcer le dialogue entre l'anthropologie et les autres sciences sociales, ont prévu de la faire prononcer par un ou une collègue dont, je les cite encore, l'œuvre prometteuse et ayant une portée comparative a déjà trouvé un premier écho international. Philippe Descola, dans quelques instants, évoquera pour nous le travail d'Aparecida Vilaça. Depuis sa disparition en octobre 2009, Claude Lévi-Strauss est demeuré présent, notamment à travers plusieurs publications, qu'il s'agisse de textes inédits, des conférences, mais aussi par exemple des chroniques qu'il avait données à la Repubblica, ou de republications. Ainsi, le mois dernier, Les structures élémentaires de la parenté, dont la deuxième édition avait paru en 1967, viennent d'être rééditées, 50 ans après, donc. Sur Lévi-Strauss, outre les textes, contributions, numéros de revue, parus après son décès, je mentionnerai seulement en France la grande biographie d'Emmanuel Loyer en 2015 et au Brésil un livre de portée plus limitée, mais qui témoigne, je crois, de l'intérêt que l'œuvre de Lévi-Strauss continue à susciter au Brésil. Publié en 2016, il est dû à une jeune historienne, Francine Jegelski. Il a pour sujet la question de l'histoire chez Lévi-Strauss. Autant que je sache, son travail a été bien reçu, tant du côté des historiens que des anthropologues. Permettez-moi, avant de finir, quelques mots encore qui feront mieux comprendre pourquoi, à titre personnel, je trouve particulièrement bienvenue cette initiative de la revue L'Homme. Et je ne suis pas le seul, j'en suis sûr. Lévi-Strauss, que je n'ai pas connu personnellement, a accompagné une grande part de mon parcours intellectuel depuis l'éblouissement de Tristes Tropiques. Sans vouloir reprendre ici ce que j'ai eu l'occasion d'écrire dans le numéro de Lerne dirigé par Michel Izard, en l'honneur de Lévi-Strauss ou ailleurs, je m'en tiendrai à deux remarques qui vont, je crois, dans le sens de ce que souhaitent les initiateurs de cette conférence, à savoir favoriser le dialogue entre l'anthropologie et les autres sciences sociales. De même qu'il y a les écrits sur l'histoire de Fernand Braudel, recueil fameux et tout un temps une référence majeure, il y a ce que je me suis plu à nommer les écrits sur l'histoire de Lévi-Strauss, soit ses propos successifs sur l'histoire, avec le cortège de débats et de malentendus qu'ils ont provoqués. À Braudel, l'insider, répond Lévi-Strauss, l'outsider, et force est de constater que dans la longue histoire des savoirs et des disciplines, il est des outsiders majeurs. Lévi-Strauss est assurément l'un d'entre eux. Car ses prises de position ont été une provocation à la réflexion pour les historiens. Que ces derniers l'aient suivi, critiqué ou ostensiblement ignoré, il n'en a pas moins balisé tout un temps l'espace de la réflexion et fourni les termes du débat. Pensons à ce qui s'est nommé, à partir du milieu des années 1970, anthropologie historique. Il est plus probable qu'il n'y aurait pas eu d'anthropologie historique, du moins sous ce pavillon, si l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss n'avait pas été là. En effet, les historiens ont gardé anthropologie et substitué historique à structural, pensant ainsi se démarquer de l'abstraction et de l'immobilité de la structure selon Lévi-Strauss. C'est un peu rapide, mais pas faux. Et c'est en tout cas ce que je veux suggérer quand je parle de baliser l'espace de la réflexion. De même, dans sa démarche régulièrement étiquetée comme anti-historiciste... Ah. Quelqu'un proteste, oui. J'ai, pour ma part, perçu, entendu de plus en plus nettement au fil des années, comme le retour d'une même phrase musicale, une attention au temps, c'est-à-dire aux divers modes de temporalité, à ce que j'ai fini par nommer régime d'historicité. Revenons pour finir à la création de cette conférence. Je m'en réjouis d'autant plus qu'avait été inauguré en 2009 et à grand son de trompe ministérielle un prix Claude Lévi-Strauss. C'était à l'occasion de son centenaire, puisque 100 ans, alors 100 000 euros de dotation. Ne lésinons pas. Mais, las, 3 ans plus tard, le prix a sombré corps et biens, cette fois dans un complet silence. Pas la moindre annonce, même en catimini, au nom des économies à faire, murmurait-on. Voilà, avons-le, qui n'est pas très glorieux pour notre République, et la pérennité de ses engagements. Puisse cette conférence, qui ne se place pas du tout sur le même terrain, qui est plus modeste aussi, être la première d'une longue série.
Je voudrais moi aussi saluer l'initiative du comité éditorial de l'Homme et des deux responsables de la revue, Cléo Carastro et Catalina Guenci, pour cette merveilleuse initiative de lancer une série de grandes conférences d'anthropologie dont nous sommes ici présents pour la première manifestation. Et il me semble particulièrement approprié que cette série de conférences Lévi-Strauss commence avec une anthropologue brésilienne qui a apporté une contribution fondamentale à la connaissance des Indiens du Brésil et pour qui Claude Lévi-Strauss avait la plus grande estime. Il me l'a dit à plusieurs reprises et je me souviens encore de la première fois qu'Aparecida, qui venait pour l'une des premières fois, je crois, à Paris, m'avait demandé « Est-ce que l'on peut rencontrer M. Lévi-Strauss ?» Je lui ai dit « Oui, on peut rencontrer M. Lévi-Strauss. » Et M. Lévi-Strauss a été enchanté de te rencontrer. Aparecida Vilaça est l'un de ces chercheurs rares en anthropologie qui, à travers l'étude ethnographique minutieuse d'un peuple dans la longue durée, c'est-à-dire pendant, non pas dans la longue durée des historiens, mais pendant très longtemps, dans la longue durée de sa vie personnelle, a su non seulement renouveler ses thèmes à mesure que ce peuple se transformait au fil du temps et qu'elle l'accompagnait donc dans ses mutations, mais qui est parvenu aussi à chaque fois à problématiser cet objet d'une façon si originale qu'il ouvrait à tous un champ de recherche nouveau. Aparecida Vilaça accompagne en effet, depuis plus de 3 décennies, les destinées d'un petit groupe d'Indiens de l'État de Rondônia, au Brésil, au sud du Brésil, près de la frontière avec la Bolivie, les Wari, qui sont plus connus sous le nom de Pacanova, et dont les premiers contacts pacifiques avec les Blancs remontent à la moitié des années 50. trois livres majeurs, de très nombreux articles bien sûr, mais je vais surtout parler des livres. Trois livres majeurs jalonnent ce parcours sur lesquels je voudrais dire quelques mots, car chacun, dans son genre, a marqué l'ethnologie de l'Amazonie d'une pierre blanche. Le premier, c'est la dissertation de Mestrado. En fait, Mestrado, c'est une grosse maîtrise qui est plus importante qu'une maîtrise en France, mais ce n'est pas encore une thèse de doctorat, qu'Aparecida Vilaça a soutenue au Museo Nacional de Rio de Janeiro sous le titre « Comendo como gente ». Mangeant comme des personnes, pourrait-on dire, hein, plutôt que comme des gens. Et qui fut publié en 1992 avec une longue préface d'Eduardo Viveros de Castro et qui porte sur le cannibalisme Wari. Puisque ce peuple présentait le trait original d'avoir été à la fois endocannibale, il mangeait ses morts, et exocannibale, il mangeait ses ennemis. Parmi bien d'autres qualités, le livre offre une exploration pionnière de la thématique de la prédation alimentaire et du rôle quasiment métaphysique que la prédation alimentaire joue parmi les peuples amazoniens à travers l'examen des relations à autrui, qu'ils soient humains ou non humains, les animaux que l'on mange pour l'essentiel, que cette prédation rend possible. Manger comme l'autre, manger avec l'autre, manger l'autre, être mangé par l'autre, qui sont toutes des formes de relations, d'incorporation, qui à chaque fois dessinent des figures très particulières de la sociabilité amazonienne. C'est une logique du concret, comme aurait dit Claude Lévi-Strauss, qui est fondée sur l'incorporation physique de ce qui n'est pas soi. Le deuxième livre, « Quem somos nos, os Wari encontramos blancos », qui sommes-nous, les Wari rencontrent les Blancs, publié en 2006, est une version remaniée de la thèse de doctorat, cette fois-ci, d'Aparecida. Et comme son titre l'indique, le leitmotiv de l'ouvrage, c'est le souvenir que les Wari conservent du contact avec les Blancs, les premiers contacts pacifiques avec les Blancs, et les interrogations que ces contacts ont soulevées chez eux quant à leur identité, puisque l'irruption d'une nouvelle forme d'altérité introduisait du trouble dans les catégories traditionnelles de la sociabilité amazonienne. Ces catégories traditionnelles, elles sont pour les amateurs, les spécialistes de la région, principalement les consanguins, les affins, ce sont des termes de parenté, mais qui désignent beaucoup plus que des positions de parenté. Et ce sont donc les consanguins que l'on peut éventuellement transformer en affins, sous certaines conditions, et des affins qui oscillent toujours entre l'ennemi réel, l'ennemi effectif, celui qu'on va manger, soit réellement, soit symboliquement, et le partenaire qui lui-même peut être consanguinisé. Et les missionnaires, puisque c'est des missionnaires dont il s'agit, la première rencontre, les missionnaires vont bouleverser cette dialectique, puisque c'est les Blancs qui étaient l'ennemi par excellence, mais qui étaient relativement maintenus à distance, vont pouvoir aussi servir de révélateurs des catégories ontologiques, organisant le monde Wari, en même temps que ces catégories permettent de comprendre la nature très particulière des effets de ce contact. Et c'est à ce dernier thème qu'est consacré le troisième livre majeur d'Aparecida Vilaça, qui est paru en anglais l'année dernière, Praying and Praying, qui pour un palais français, la distinction n'est pas toujours facile à faire. Praying, c'est la prière, et praying, c'est la prédation. Et l'idée, évidemment, c'est de rendre compte dans ce livre, et de façon encore une fois très originale, des raisons pour lesquelles les Wari se sont convertis au christianisme, dans sa version évangéliste, et non pas individuellement, mais massivement, comme un collectif, puis l'ont abandonné avant de se reconvertir à nouveau. et Aparecida Vilaça montrent dans ce livre à la fois ce qui, dans la doctrine fondamentaliste des New Tribes Mission, a pu coïncider avec quelques traits fondamentaux de la culture Wari, à commencer par la possibilité d'établir des relations de consanguinité avec les missionnaires afin d'apprivoiser leur altérité menaçante, donc les faire passer de la position d'affin maximal d'ennemi blanc en consanguin, et en particulier aussi comment certains effets de la création divine, telle qu'il leur a été enseignée par les missionnaires, comme la déshumanisation des animaux, le fait que les animaux sont séparés des humains par l'acte même de la création, offrait l'avantage d'éliminer une autre altérité menaçante et de résoudre d'une certaine façon un problème métaphysique que les Wari, comme d'autres populations amazoniennes, rencontrent, qui est celle que les animaux comme personnes rendent difficile la position des humains comme humanité. Et les missionnaires, d'une certaine façon, pouvaient résoudre ce problème et pouvaient donc contribuer à stabiliser la position toujours instable d'êtres humains en Amazonie. Alors, je ne vais rien dire de la conférence, du thème de la conférence d'aujourd'hui, mais vous allez voir qu'elle est dans le prolongement direct de cette question, puisque depuis quelque temps maintenant, Aparecida Vilaça étudie, au-delà de la conversion et au-delà des mécanismes de la conversion, au-delà des raisons qui font qu'on se convertit ou pas d'ailleurs, les effets dans l'éducation du message évangélique et les raisons pour lesquelles, au fond, certaines productions scientifiques qui sont enseignées dans les universités à destination des Indiens peuvent passer de façon plus facile dans la mesure où, paradoxalement, elles correspondent à un message biblique. Donc, la vie secrète des nombres et le diable.
Merci Philippe pour vos très aimables mots. Et je voudrais remercier aussi les organisateurs de cette conférence, spécialement Cléo Carastro et Catherine Genzi de la revue L'Homme et Olivier Allard de l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un honneur immense pour moi qu'est d'inaugurer ce cycle de conférences Lévi-Strauss. Tout d'abord parce que j'ai vu une sincère admiration à celui qui fut certainement le plus grand anthropologue du XXe siècle, et également parce que son influence a été décisive dans la constitution de l'anthropologie au Brésil, en particulier dans la formation que j'ai reçue au Musée national. Son œuvre a placé le peuple indigène sud-américain au centre des discussions anthropologiques, non pas comme le faisait l'anthropologie de son temps, où les pratiques et la pensée indigène étaient vouées à s'ajuster aux catégories anthropologiques, mais au contraire, en permettant que leur pensée donne lieu à la création de nouvelles catégories et de nouveaux concepts qui ont révolutionné l'anthropologie américaniste. Son entreprise intellectuale a également eu d'importants effets politiques, car en assurant à ce peuple les statuts d'humains sophistiqués et sages, l'ample divulgation de son œuvre a suscité l'admiration et le respect chez ses lecteurs qui, au Brésil, sont venus à obtenir qu'ils soient inscrites dans la Constitution des garanties légales visant à la protection de leurs terres et de leurs traditions. Aujourd'hui, une fois de plus menacée dans mon pays. Parler de la pensée de ce peuple dans cette institution qu'il a vu naître par la voix de Lévi-Strauss, puis aujourd'hui en résonance avec celle de Philippe Descola, la plus importante et la plus révolutionnaire réflexions qui soient à leur propos est sans aucun doute pour moi une grande responsabilité. Mais c'est aussi les pouvoirs d'enchantement et de séduction de cette pensée originelle qui m'encourage à tenter d'être ici la porte-parole. Lévi-Strauss nous a appris, plus particulièrement dans les mythologiques, que les points de départ choisis pour s'atteler à une analyse est moins pertinent qu'il ne le semble, car n'importe quel démarrage nous amènerait par des chemins parallèles aux propriétés structurelles de la pensée en question. Pour parler de la rencontre entre Indiens et Blancs, thème que je travaille depuis une vingtaine d'années, grandement inspiré par l'ouvrage « Histoire des langues », et en particulier quand il est question des processus de christianisation de peuples natifs, j'ai choisi une entrée peu habituelle, les mathématiques. Consciente qu'il s'agit là d'un thème cher à Lévi-Strauss, qui a fait un usage original des formules et d'expressions algébriques comme outil explicatif, je m'intéresse ici à une autre mathématique, celle des indigènes, plus spécialement à certaines de ces étranges particularités. Les mathématiques représentent la discipline qui, dans l'histoire occidentale, en est venue à représenter la connaissance scientifique dans sa forme la plus pure. Dans leur capacité professée d'exprimer la réalité comme telle, sans les interférences qui provoquent les frictions et les humeurs inhérents à la physique, à la biologie ou à la chimie, les mathématiques se constituent comme les langages paradigmatiques de l'Occident. J'ai donc été incitée à comprendre comment les Indiens avec lesquels je travaille depuis une trentaine d'années, les Wari du sud-ouest amazonien brésilien, font interagir leur façon de quantifier le monde avec celle des Blancs, dans des échanges commerciaux, dans des écoles de village ou plus récemment dans les licences universitaires interculturelles. Je pourrais certainement choisir comme point de départ d'autres contextes d'interaction entre Indiens et Blancs. Mais ce qui m'intéresse avant tout, comme nous l'a enseigné les maîtres auxquels nous rendons hommage ici, c'est de voir comment différents chemins nous mènent au même endroit, dans ce cas, aux particularités de la pensée Wari quand elle est confrontée à l'altérité et aux modes indigènes de traduction et de transformation qui lui sont propres. En outre, comme le montre l'histoire des sciences, christianisme et mathématiques sont plus proches qu'ils n'en ont l'air, si on considère que l'avènement du christianisme dans la continuité de la philosophie grecque a été décisif dans la définition de la notion de nature qui, plus tard, est revenu aux mathématiques la tâche de décrire. Dérivation aberrante. Comme il est arrivé à propos d'autres thèmes, c'est Lévi-Strauss qui a éveillé chez moi un intérêt pour les mathématiques indigènes, et particulièrement par les biais d'une brève observation qu'il a lui-même peu exploitée, faite dans les chapitres de l'origine des manières de table, intitulé « Les dizaines ». Dans ces chapitres où sont analysés les systèmes quinaires, décimaux et vigésimaux de peuples d'Amérique du Nord et du Centre, Lévi-Strauss attire l'attention sur d'étranges mécanismes de dérivation identifiés chez les peuples du Nord-Ouest d'Amérique du Nord, parlant des langues esquimaux, athapascans et pénoutiens. Ces peuples possèdent des termes distincts pour les chiffres de 1 à 6, mais et je cite Lévi-Strauss, « Si étrange que cela paraisse, il forme 7 par dérivation des 6 plus 2, 8 par dérivation des 6 plus 3 et 9 par dérivation des 6 plus 4. » Après nous avoir rappelé que nous devons comprendre l'esprit de chaque système arithmétique sans imposer nos catégories, en les reliant aux pratiques et aux croyances des peuples concernés, Lévi-Strauss va chercher la raison de ce qu'il dénomme des dérivations aberrantes dans les calculs présents dans les mythes d'autres peuples du même continent. Ces calculs révèlent que les nombres manquants dans les sommes mentionnées est incarné par une figure médiatrice, ne faisant pas partie des ensembles additionnés. Cette série des mythes réunit au sépare deux groupes d'hommes, l'un formé par 5 frères et l'autre par 2 frères, par l'intermédiaire d'une femme, sœur des uns ou des autres. Les dérivations natives se doivent au fait qu'autant dans l'addition 5 plus 2 que dans les soustractions 7 moins 5 ou 7 moins 2, un troisième terme s'est fait nécessaire qui joue les rôles de l'opérateur. Tout en rappelant au passage que nous sommes amenés ici directement au thème du ternarisme constitutif des structures dyadiques, si centrales dans l'œuvre de Lévi-Strauss, et en faisant un saut encore plus grand sur les continents américains, avant d'en arriver au Wari, nous tombons sur des étudiants en mathématiques de l'école du parc indigène du Xingu dans les années 1980. Un fonctionnaire du gouvernement qui comptait leur acheter 7 flèches à 5 cruzeros chacune, alors que ceux-ci étaient en train d'exécuter des opérations mathématiques aberrantes, s'exclama, je cite, « Comment est-il possible que 7 fois 5 égale 125 ? Vous, Indiens fainéants, n'y connaissez rien en argent, rien en vente, ni en achat. C'est bien vrai ce qu'ils ont dit des Indiens, qu'ils sont trop stupides pour apprendre les mathématiques. » Cependant, comme nous l'a montré l'auteur de cet article intitulé « De façon suggestive, quand 1 et 1 ne font pas 2 », ici aussi des facteurs supposément absents ont été intégrés dans la somme. Les valeurs relatives à 6 casseroles de céramique achetées par les fonctionnaires et la viande d'un cerf, transaction faite dans le passé et jamais payée. La somme finale était correcte. Les opérateurs, néanmoins, étaient invisibles. Dans un autre calcul observé par l'enseignante de la même école, on retrouve la même inclusion d'éléments occultes. Les problèmes posés étaient les suivants. J'ai attrapé 10 poissons la nuit dernière et j'en ai donné 3 à mon frère. Combien de poissons ai-je maintenant ? 13 a été la réponse, ce qui a surpris l'enseignante. Les raisonnements du calcul, lui a expliqué l'élève, incluent les principes d'économie de l'échange local. J'en ai 10 et j'en donne 3 à mon frère. Il m'en reste 7. Mais mon frère, moi, doit me donner les doubles en retour. Donc, j'en ai 13. Si les calculs montrent que l'économie des marchés est englobée par celle du don, tout comme ils démentent les doutes sur la capacité cognitive de ces peuples, ce qui m'intéresse est en fait de relever ce que nous pourrions appeler une moralité des nombres. Cette moralité rend les nombres instables, tout comme les opérations qu'ils effectuent, alors précisément que l'on les considère comme les traducteurs les plus fidèles de la nature sans humain fabriquée au cours de notre longue histoire. Selon Lévi-Strauss, un troisième terme, occulte, vient s'imposer avec insistance et déstabilise la relation précise entre diviseur et dividende. Les titres de l'article mentionné, quand 1 plus 1 ne font pas 2, nous mènent finalement aux wari, au peu de nombres dont ils se servent et à leur traduction, qui, entre autres, font équivaloir les nombres 1 à moins 1 et, dans certains cas, associent le 2 au plusieurs. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de définir les termes cachés de leur traduction. Et je commence par une brève présentation des Wari. Les Wari sont aujourd'hui environ 3000 et vivent dans plusieurs villages situés à l'état brésilien de Rondônia, près de la frontière avec la Bolivie, non pas loin de la région parcourue par Lévi-Strauss dans les années 1930. Jusqu'en 1956, au moment de ce qu'on a appelé la pacification, les contacts avec les Blancs étaient uniquement belliqueux, tout comme avec les ethnies les plus proches, les Karipuna et les Uruwawao. Les expéditions des contacts étaient organisées par des agents gouvernementaux accompagnés des missionnaires évangéliques nord-américains de la New Tribes Mission, récemment créée. Dès qu'il réussit à attirer les Indiens, les missionnaires s'établirent parmi eux et cherchèrent à apprendre leur langue, de façon à commencer le plus rapidement possible leur travail de traduction de la Bible et des catéchèses. En vue de former des traducteurs indigènes qui plus tard deviendraient pasteurs, ils se mirent à les alphabétiser, ce qui, au fil des ans, cessa d'être réservé aux adultes pour être dispensé aux enfants. Et l'on vit ainsi apparaître les premières écoles des villages Wari. Les missionnaires restèrent professeurs d'alphabétisation bilingue jusque dans les années 1990, quand fut établi dans la région un nouveau projet brésilien d'éducation, destiné aux populations indigènes et calqué sur les relativismes culturels, dont font partie les professeurs natifs. En 2009, on créa les cours universitaires des licences interculturelles, composés des modules d'une durée de 2 mois durant lesquels les étudiants Wari restaient en ville et fréquentaient les salles de cours avec des Indiens d'autres ethnies, majoritairement de la famille linguistique Tupi-Mondé. Dans ces milieux scolaires, et plus particulièrement après l'instauration de l'enseignement interculturel relativiste, ils se virent obligés de mettre en équation leur quantificateur avec les nombres mathématiques. École et mathématiques. À l'instar de nombreux autres peuples des basses terres sud-américaines, comme l'avait déjà noté Lévi-Strauss dans les chapitres cités de l'origine des manières des tables, les Wari ont un système numérique que certains mathématiciens traiteraient de rudimentaire. Les quantités précises se restreignent à l'unité et à la paire, qui ne sont pas employées pour la dérivation des autres numéros, comme cela se passe chez quelques autres peuples ayant un système binaire de ce type. Les autres quantités sont relativisées et nommées par des quantificateurs du type peu ou beaucoup. Ainsi, par exemple, on peut se référer à 3 proies en disant beaucoup, dans les cas où le narrateur ne vit qu'avec sa famille, ou comme peu, dans les cas où il fait partie d'un grand village et doit distribuer la viande. Comme chez divers autres peuples, les Wari utilisent les doigts de la main pour objectiver les ensembles, particulièrement des ensembles de personnes citées dans un récit déterminé. Chaque doigt correspondant à une personne, il passe d'une main à l'autre ou peuvent subitement renoncer à ces gestes en préférant l'un des termes pour beaucoup qui désigne des grandes quantités. Avec l'arrivée de l'école et de l'argent qu'ils recevaient des Blancs en échange de certains services et dépensaient auprès des commerçants fluviaux ou plus rarement dans la ville de Guajará-Mirim, ils se sont mis à faire usage des noms nombres et à faire des comptes. Ils ne s'étaient jamais considérés comme pauvres en nombre jusqu'à ce que les professeurs de l'enseignement interculturel non indigène souciés d'ouvrir un champ à l'expression de la culture native dans leur classe commencent à leur demander de traduire les nombres cardinaux dans leur langue. Après les 1 et les 2, ces élèves employaient des quantificateurs de façon aléatoire, exception faite du terme utilisé pour « peu » que la plupart d'entre eux traduisent par « 3 ». Au-delà, selon l'élève, les nombres de 4 à 10 étaient désignés aléatoirement par divers termes utilisés pour dire « beaucoup », qui peuvent être augmentés pour atteindre des nombres supérieurs, en utilisant, par exemple, l'adverbe « très » et les qualificatifs « véritables », ce qui donne lieu à des expressions du type « vraiment beaucoup ». Ces traductions instables proviennent des salles de cours de l'enseignement secondaire et de l'université interculturelle où les professeurs ne sont pas indigènes et ont été introduites dans les écoles du village par l'intermédiaire des professeurs indigènes qui sont incités au cours de leur formation à enseigner aux enfants dans leur propre langue ou, comme ils ont l'habitude de dire, dans les termes de leur propre culture. Cette brève introduction au quantificateur Wari nous mène à observer l'un d'entre eux de plus près, en raison de l'intérêt qu'il présente dans l'analyse que je propose. Il s'agit du terme employé par les Wari pour exprimer notre chiffre 1, tchikapé. Dans leur langue, tchikapé signifie être seul et a toujours une valeur négative, c'est-à-dire qu'il est employé de façon à susciter de la peine, de la compassion. Un ou une veuve se dit seul, tout comme quelqu'un qui vivrait loin de ses parents. De la même manière, un chasseur qui n'aurait tué qu'une proie s'excusera d'une distribution trop maigre ou même inexistante en employant les mêmes termes. Rien de ce qui est seul n'est bon. Lorsque je vivais seule dans une maison du village, il arrivait souvent que mes amis, pris de pitié, envoyaient leurs filles dormir chez moi. Il est clair qu'un processus de transformation est en cours chez quelqu'un qui tend à s'isoler, qui semble aimer rester seul, car il serait en train d'établir des relations dangereuse avec des morts ou des animaux. En outre, solitude et isolement sont, pour nombreux groupes indigènes, l'indication d'un état pouvant être associé à la sorcellerie, car cette attitude met en évidence des relations avec d'autres types d'êtres. La valeur négative attribuée au 1 n'est pas cependant une caractéristique exclusive des Wari. Elle est commune à plusieurs groupes de Basses-Terres, aussi différents entre eux que les Caribes Ingarico des Roraima et les Tupis Guarani Paracanã du Pará. Ferreira, auteur de l'article mentionné plus haut sur les additions aberrantes chez les Xinguanos, Dans une étude des concepts numériques chez les Chavanches, groupe G du Brésil central, associe également l'unité à la solitude, faisant contrepoint à la valeur positive donnée aux deux et au nombre pair de façon générale. Pour la citer, lorsque l'on se tourne vers la philosophie mathématique des sociétés dialectiques, ce que l'on apprend dès le départ, c'est que, contrairement à la définition euclidienne de l'unité selon laquelle ce qui se réfère à chaque chose est appelé 1, pour les sociétés dialectiques, je suggère que chaque chose qui existe est appelée 2, impair, car chaque chose est nécessairement formée par une paire de 1, l'être solitaire. Dans son livre « La société contre l'État », Pierre Clastres avait généralisé ces contrastes dans un chapitre intitulé « Des langues sans les multiples » sur la base de l'ethnographie guarani. Selon l'auteur, la valeur négative de l'unité se contreposerait non pas à la multiplicité, mais aux deux et au double. Selon lui, je cite, « Les mâles, c'est l'un. Ce n'est pas les multiples, c'est les deux, les biens, pardon, ce n'est pas les multiples, c'est les deux, à la fois l'un et son autre. » Clastres attribue cette valorisation à l'importance d'un principe anti-identitaire entre les Guaranis. Bien avant Clastres, Lévi-Bruhl, dans les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, consacre à la numération un chapitre où il préfigure quelques notions comme celle de la mathématique concrète et sa relation avec les mondes sensibles et avec les corps, notions développées postérieurement dans des travaux ethnographiques importants sur les systèmes de comptage de peuples non occidentaux ou minoritaires. Il note l'inversion des valeurs attribuées au 1 et au 2 dans son analyse de certaines différences entre les peuples modernes et indigènes. Selon lui, alors que divers systèmes indigènes ignorent l'unité et font débuter le système numérique avec les nombres 2, chez les modernes, dans le contexte de leur religion monothéiste et de leur philosophie moniste, les 1 est le principe du bien, de l'ordre, de la perfection, du bonheur, tandis que le 2 acquiert les caractères négatifs de l'imperfection, du principe du mal et du désordre, réservé dans diverses langues pour se référer à la duplicité, à la double vie. Il s'agit, nous le savons, d'une opposition également explorée par Lévi-Strauss quand, dans Histoire des langues, il analyse un ensemble de mythes relatifs à la gémellité qui portèrent son attention sur la différence entre les jumeaux de la mythologie indo-européenne et ceux des mythologies des Amériques. Les premiers sont perçus comme identiques, même s'ils descendent des pères différents, alors que les secondes sont marquées par la différence qui existe entre eux. Les deux et les un nous permettent d'aborder un autre thème que j'ai envisagé de traiter, le christianisme, certainement la plus diffusée et la plus importante des religions monothéistes mentionnées par Lévi-Bruhl, et qui est arrivée chez les Wari par l'intermédiaire de ceux qui, précisément, leur apportèrent les nombres. Je souhaite montrer comment le travail des missionnaires chez les Wari vise principalement à transformer la notion des personnes ou, pour reprendre les termes dont nous avons fait usage ici, à passer du 2 au 1. L'idée du 1 est centrale pour les missionnaires évangéliques fondamentalistes qui ont catéchisé les Wari. Ils trouvent dans la Bible, dont ils prennent les textes au pied de la lettre, plusieurs passages qui expliquent la valeur de l'unité, que ce soit directement ou au moyen de la critique de la dualité, comme dans les versets du livre des Proverbes 20-10, qui ressemblent plutôt à un cours explicite des mathématiques morales. Deux poids différents et deux espèces de mesures sont aussi bien d'un que l'autre une abomination aux yeux du Seigneur. Pendant leur catéchèse, les missionnaires mettent l'accent sur l'unité de la Trinité divine, l'idée des vérités uniques que l'on trouve dans la Bible et l'existence des personnes individualisées, séparées des autres, possédant un moi interne secret qui n'est révélé qu'à Dieu. Pour comprendre les effets de ces conceptions sur les Wari, je commencerai par une brève introduction à leur notion de personne. Pour les Wari, comme pour plusieurs autres groupes amazoniens, les caractéristiques d'une personne déterminée, ou ce que nous appellerions sa personnalité, se trouvent dans son corps. On dit, par exemple, que cette personne en aime certaines autres, qu'elle est joyeuse et intelligente, parce que son corps est ainsi fait. Il n'y a pas chez eux des notions des principes vitaux ou d'esprit attaché au corps, mais bien la notion d'un principe transformationnel appelé yamishi, qui peut être activé selon les contextes relationnels. Plus qu'une âme, il s'agit d'un corps autre, potentiel, constitutif de tout être humain et qui, idéalement, reste éclipsé durant sa vie, la vie. Son activation est réservée aux chamans et quand ce genre de transformation atteint des personnes communes, elle conduit à la maladie et à mort. Ces principes, que j'appellerais ici les doubles, et les points de liaison entre les Wari et diverses espèces animales. Ces animaux se voient eux-mêmes comme des gens et, tout comme les Wari, ont un double potentiel qui peut être activé au moyen des relations. Ainsi, de la même façon qu'un Wari peut acquérir un corps de jaguar, s'il est en relation avec ces animaux-là, un jaguar peut se présenter comme Wari en s'insérant au milieu de ceci. Seul un troisième point de vue, toujours relatif et contextuel, peut déterminer si l'on se trouve face à un corps ou face à un double. Voyons un exemple. Dans un passé encore récent, les rapts par des jaguars était chose courante. Les cas les plus fréquents impliquaient une personne, généralement un enfant, qui se trouvait seul dans les environs du village et se voyait subitement face à un parent qui l'invitait à les suivre, que ce soit pour cueillir des fruits ou pour chasser ensemble. Les gens du voisinage, ayant remarqué son absence, suivirent ses traces et constatant que celle-ci était accompagnée d'empreintes de jaguar, ils se rendirent compte que l'enfant avait été enlevé, puisqu'ils savaient que les jaguars s'intéressaient aux enfants Wari pour en faire des membres de leur groupe. Ils suivaient les traces du jaguar tout en criant les noms de l'enfant et en l'avertissant que celui ou celle qui les guidait n'était pas une vraie personne, mais un jaguar. Les jaguars, quand ils les entendaient approcher, décidaient la plupart des fois de laisser là l'enfant qui était alors retrouvé par les parents, tout couvert de poils et de tiques, l'époux du jaguar. Les Wari disaient que l'enfant avait suivi les doubles du jaguar, car il voyait ces derniers comme l'un des siens, comme une personne. À l'inverse, les autres Wari ne pouvaient les voir sous cette forme et ne voyaient que son corps animal. Il s'agit d'un exemple paradigmatique de ce que Viveiros de Castro a appelé le perspectivisme amérindien, dans lequel Indiens et animaux se voient comme des personnes et partagent une même culture. Ils organisent des fêtes, soignent leurs parents, etc. La différence entre eux se situe dans leur corps qui constitue les sièges de la perspective sur les autres et sur les mondes. Les jaguars, comme les Wari, boivent de la bière au quotidien et lors de leurs fêtes. Mais alors que pour les Wari, la bière est faite à base de maïs, pour les jaguars, c'est du sang. Une personne enlevée par un jaguar, par exemple, tend à partager la perspective du jaguar et à voir le sang comme une boisson, ce qui est un signe de la transformation de son corps. On a certes déjà beaucoup parlé dans la littérature américaniste des corps amérindiens en fabrication constante via l'alimentation quotidienne, les incisions, les ornements et autres procédés rituels qui sont produits et différenciés en tant que corps humains particuliers. Toutefois, je ne pense pas qu'il en ait suffisamment insisté sur le fait qu'il s'agit surtout, et j'emploie ici les mots d'Anne-Christine Taylor, des corps chroniquement instables, qui courent constamment les risques d'une transformation et qui se révèlent tantôt comme humains, tantôt comme animaux. Ces corps instables nous renvoient à la notion des personnes individuelles qui est surtout développée dans le contexte de l'ethnologie mélanésienne à partir des travaux de Mary Stratton. Tout comme dans le contexte amérindien décrit ici, la personne individuelle contient en puissance son inverse. En Mélanésie, les masculins et les féminins. Dans l'univers Wari et quelques autres peuples amazoniens, comme l'a observé Philippe Descola, l'humain et l'animal. La définition de l'un des pôles de cette personne individuelle est toujours contextuelle car elle dépend de la rencontre avec une autre personne individuelle qui est constituée de la même manière. Chacune d'elles adopte une des faces de la personne et éclipse la face opposée pour qu'elle soit actualisée à un autre moment. Les rencontres en forêt avec les animaux sont, pour de nombreux peuples amazoniens, les exemples paradigmatiques de cette dynamique. Tous deux se voient comme humains et voient l'autre comme proie. C'est lui qui a su agir comme prédateur va se définir comme le pôle humain de la paire relationnelle et mettre l'autre dans la position de proie animale. Dans d'autres circonstances, la situation peut s'inverser. C'est l'animal qui agit comme prédateur et se définit comme humain. L'idée des personnes individuelles est indissociable des notions d'instabilité et de transformation largement explorée dans l'œuvre de Lévi-Strauss, et plus particulièrement dans ses analyses mythiques. Un bon exemple serait ce qu'il appelle les opérateurs binaires, analysés dans les finales de l'homme nu. Ce sont des animaux qui, comme la raie, ont des faces radicalement distinctes, selon la perspective que l'on adopte pour les regarder. Et c'est pour cette raison qu'ils sont mis en exergue dans la mythologie. Dans l'histoire des lynx, les mêmes types d'oscillations des perspectives sont analysés dans son expression sociologique. Et nous sommes amenés par l'auteur à la notion de dualisme en perpétuel déséquilibre, en développement des notions de dualisme concentrique et de ternarisme qu'il avait présenté des dizaines d'années auparavant. Ethnographiquement fondée sur les sociologies et les concepts de peuples amérindiens, surtout sur des jeux du Brésil central, ces formulations ont eu une énorme répercussion dans l'ethnologie régionale, aussi bien dans les études des parentés que dans celles orientées vers la constitution de la personne. Figure centrale dans ce dédéveloppement, Viveiro de Castro, tout en s'inspirant d'histoire des lynx, a étendu les dichotomies sociologiques de Lévi-Strauss à la notion amérindienne des personnes, composée d'un corps et d'une âme, cette dernière étant son pôle d'instabilité et de duplication, que l'auteur a associé explicitement à la personne individuelle mélanésienne. Ce qui intéresse les Indiens, comme le savent les ethnographes, c'est la stabilisation de la personne, inévitablement temporaire. Il s'agit d'un processus décrit dans diverses ethnographies comme étant la fixation de l'âme au corps. Processus qui caractérise l'action chamanique dans les cas des maladies décrites comme la perte de l'âme. Cette stabilisation de la personne en son aspect humain, c'est-à-dire en tant que parent au sein d'une parentèle donnée, s'est faite par divers moyens, dont une alimentation adéquate qui respecte les tabous alimentaires, afin d'éviter la vengeance des animaux, ainsi qu'une intense convivialité avec les siens, tout en portant une attention particulière à tout signe de transformation. Comme j'en ai déjà fait l'observation, une personne solitaire, isolée ou alors sans appétit indique l'établissement des liens sociaux avec d'autres types d'êtres, dans ces cas, avec des animaux. Comme personne ne cesse de s'alimenter, le fait de refuser la nourriture offerte par des parents signifie que l'on ne perçoit pas cette nourriture comme légitime, dans la mesure qu'on s'alimente en compagnie d'autres êtres et que l'on boit, par exemple, les sangs comme si c'était de la chicha. Les rencontres avec le christianisme. Alors que les missionnaires cherchaient chez les gens un moi intérieur afin d'y établir la communication avec Dieu, ils se sont heurtés à une sorte de moi extérieur. Un moi constitué depuis dehors par les regards de l'autre. Initialement, cela les a exaspérés. Ensuite, ils identifièrent la place du yamishi, les doubles, dans la fragmentation de la personne et les bannirent de sa constitution. La personne qui surgit dans les traductions bibliques en langue wari est composée d'un corps et d'une âme, celle-ci étant hiérarchiquement supérieure à celui-là dans le contexte moral, devenant de ces faits les sièges de la personnalité. Le corps n'est plus qu'une enveloppe, une peau qui couvre les véritables moi logés dans le cœur associé à l'âme, seulement visible par Dieu. Le travail d'unification de la personne est effectué par les missionnaires au moyen d'une série de rituels comme les cultes, lors desquels des prières sont adressées directement à Dieu, et surtout par les biais de la confession, technique du soi pour utiliser un concept de Foucault crucial dans la production du moi intériorisé. Parallèlement à cette production du moi et de manière indissociable, comme l'avaient déjà souligné Mauss, Linhart, Descola et Latour, on trouve la création d'une idée de nature séparée des humains, qui, dans les cas de Wari, comprend également l'objectivation des animaux, c'est-à-dire la perte de leur double. Au cours de ces processus, la traduction du premier livre de la Genèse vers la langue Wari a été fondamentale. Les Wari sont immédiatement tombés sous les charmes de ces textes, vu l'intérêt qu'ils portaient à la stabilisation de leur corps. Des extraits de la Genèse figurent non seulement dans les livres des catéchismes, mais sont aussi fixés sur les murs de l'Église et constamment repris dans les prières adressées à Dieu. Voyons-en deux tels qu'ils ont été traduits dans la langue Wari. Genèse 1, 28. Dieu dit satisfait, soyez féconds, reproduisez-vous beaucoup et multipliez-vous. Dispersez-vous sur toutes les autres parties de la terre. Soyez des chefs, soyez les maîtres des poissons, des oiseaux et de tous les animaux. Genèse 1, 30. Mangez tous les animaux, tous les oiseaux, tous les animaux étranges qui rampent sur la terre aussi. Accepter les faits de la création implique de partager la perspective du Créateur, Dieu, qui a fait des hommes les seigneurs des animaux, c'est-à-dire des prédateurs, selon les mots d'un vieil homme, Paléto. Je cite, « Quand on ne croyait pas encore en Dieu, on ne mangeait pas des coatis, car cela rendait les enfants fous. Maintenant, les bêtes sont des bêtes. Nous n'avons plus peur des animaux. Leurs doubles ont disparu. » Une fois la nature créée, un espace s'ouvre à l'idée des vérités uniques, celles qui coïncident avec la parole de Dieu transcrite dans la Bible, particulièrement importante aux yeux des missionnaires protestants fondamentalistes qui insistent sur la vérité des événements bibliques, pris littéralement. Comme l'a dit un missionnaire de la New Tribes Mission dans son manuel des catéchèses, je cite, « Ce que nous annonçons n'est que ce qui est littéralement arrivé dans les temps et dans l'espace. C'est réel, c'est un fait, c'est l'histoire. Rien n'est plus proche des fondements de notre science et des mathématiques qui lui sont associées et en même temps plus profondément distant de la science relationnelle chamanique avec ses multiples versions d'événements, toujours dépendant de l'expérience diverse de chaque chaman. Les diables et les retours du deux. Bien qu'ils se disent aujourd'hui chrétiens, qu'ils fréquentent les cultes, prient Dieu et se confessent, les Wari éprouvent une difficulté évidente à faire face aux notions des personnes unifiées et des natures déshumanisées. Le christianisme lui-même a offert un moyen d'exprimer leur résistance à ces notions. C'est les diables, tricksters de la mythologie chrétienne, rapidement incorporés par diverses cultures atteintes par cette religion. Dans le cas des Wari, les diables a été celui qui, de façon occulte, leur a permis, pendant un bon bout de temps, de continuer leur opération aberrante. transformation interspécifique, chamanisme et versions multiples du monde. Récemment encore, Lewari disait que les diables, des façons à les attirer à lui, entraient dans les animaux et les rendaient leur subjectivité, en les poussant à agir comme des humains, en enlevant des personnes et en causant maladie et mort. L'humanité des animaux restaurait simultanément les caractères individuels de la personne noire, qui prenait de nouveau les risques de se transformer en animal. Cet an dernier, alors que les prières et la vie chrétienne ont rendu les Wari plus capables de partager les points de vue de Dieu sur la création, les diables a jeté son dévolu sur l'univers des personnes en soi. Alors que les Wari cherchaient avec le christianisme à construire une communauté de frères, les diables a fait ressurgir l'affinité et les mots qui y sont associés. La personne individuelle se reconstitue, transitant par un passage plus étroit du continuum qui exprime les faces de l'humanité, non plus entre l'humain et l'animal, mais entre les consanguins et l'enfant. Il s'agit d'une transformation importante que j'ai abordée à d'autres occasions, mais qui cependant préserve les caractères composites de la personne, à la différence de l'individu qui propage les missionnaires. Les Wari expriment encore leur aversion à l'égard de l'individu dans la conception qu'ils ont du ciel, seul lieu où la personne unifiée se stabilise définitivement et se voit alors enfin libre de l'affinité. Là-haut, ils sont tous frères et sœurs. De façon surprenante, il s'agit d'un endroit qui n'offre que peu d'intérêt à leurs yeux. Là-bas, les actes de production des parentés sont supprimés. Les personnes restent isolées, chacune chez elles, et elles passent leur temps à écrire la parole de Dieu, à boire de l'eau et à manger du pain. Ils l'acceptent simplement parce que c'est la seule alternative à l'enfer, où, par opposition, ils deviendraient des proies éternelles, grillant en continu sur une rôtissoire. Tout se passe comme si, quand ils deviennent pleinement humains, les Wari ne parvenaient pas à se voir comme tels, comme si l'humanité, pour eux, dépendait de la capacité de perdre cette position. Et c'est là les 100 plans de Yamishi, les doubles, principe de transformation qui caractérise l'humanité. Des animaux sans double, comme les singes araignées, par exemple, ne sont pas vus comme potentiellement humains. Ils étaient déjà des simples proies animales, même avant l'avènement de la Genèse. Il faut cependant spécifier ce que j'appelle résistance au christianisme, car il ne s'agit pas d'une vision culturaliste imprégnée de l'idée d'authenticité et des rejets à l'autre. Au contraire, les Wari, comme plusieurs peuples sud-américains, sont des exemples clairs de l'idée lévi-straussienne d'ouverture à l'autre. Ils s'intéressent à des personnes neuves, à leurs idées, leurs rituels, leurs objets. Ils se disent chrétiens et les sont effectivement. La question est qu'ils ne sont pas que cela. Au mieux dit, les résistances renvoient au problème du « un », l'un des piliers importants de la religion chrétienne qui leur a été apporté. Comme de nombreux autres groupes christianisés, les Wari n'ont pas pu se défaire de leur monde et ont composé ces deux univers non pas sous une forme hybride qui supposerait un mélange un peu aléatoire des conceptions chrétiennes et wari, mais à la façon typiquement amazonienne de l'alternance. Celle-ci devient évidente non seulement dans le fait d'avoir alterné des phases chrétiennes et non chrétiennes au fil du temps, mais aussi de façon plus subtile dans les choix traductifs qui font les hommes wari qui travaillent comme auxiliaires des missionnaires. L'usage de la langue indigène est, aussi bien dans les traductions chrétiennes que scolaires, et les religieux les savaient bien et les craignaient, un important instrument anticonventionnel, c'est-à-dire, par conséquent, qu'il facilite l'alternance des perspectives. Pour les missionnaires évangéliques de la New Tribes Mission, cependant, il n'y a pas d'autre option, car les messages divins ne touchent les gens qu'une fois traduits vers ce qu'ils appellent la langue de leur cœur. Un cas intéressant est celui de la traduction faite par les missionnaires avec l'aide des traducteurs indigènes du verbe aimer par n'est pas déplaire, unique terme wari équivalent à notre verbe aimer. Plusieurs passages de la Bible en langue wari affirment donc que vous ne déplaisez pas à Dieu, à la place de Dieu vous aime. Si, d'une certaine façon, n'est pas déplaire, c'est un peu la même chose qu'aimer, le terme wari explicite que le point de départ des relations est l'inimitié, elle-même lieu au déplaisir. L'amour est, dès lors, quelque chose à construire par l'agence humaine. Le monde primordial est celui qui est composé par d'autres impuissances qui eux-mêmes doivent être extraits du monde de l'autorité par les biais d'actes de parenté. Les parents sont fabriqués à partir des autres. Il s'agit d'une différence importante entre les mondes wari et chrétien. C'est également par les truchements de la traduction des enseignements chrétiens vers la langue wari que les corps restent les sièges de la personnalité, puisqu'il n'y a pas, dans leur langue, une façon de dire qu'une personne est ainsi faite, sauf par l'expression « son corps est ainsi ». Une telle expression est employée même dans les descriptions de Dieu, de son pouvoir, comme par exemple « le corps de Dieu est ainsi, il est fort ». Quoique quelques lignes plus haut, dans les mêmes textes traduits, il a été affirmé que Dieu n'a pas de corps, comme leur ont enseigné les missionnaires. Le terme employé pour double, yamishi, a été préservé non seulement dans les vocabulaires du quotidien, en dehors de l'Église, mais aussi présent dans les traductions bibliques, même s'il est alors associé aux activités du diable qui entre dans les corps des personnes et des animaux et les pousse à agir étrangement à la manière du double. Énoncé dans les dialogues et cité dans les textes pendant les cultes, Yamishi rend présent le monde de la multiplicité et des transformations. La question des traductions nous renvoie finalement encore à nos nombres. J'ai pu observer que les Wari ont fait équivaloir les termes seul à notre chiffre 1. Néanmoins, il est significatif que cette équivalence n'implique pas la traduction d'un terme par l'autre. Autrement dit, les Wari n'emploient pas les « un » en portugais et continuent à utiliser le terme « seul ». Il semblerait qu'ils ne puissent échapper au problème de l'absence de l'autre comme caractéristique la plus importante du « un ». Le terme « seul » devient donc les ponts entre la mathématique des Blancs et la mathématique morale des Wari. Il révèle, une fois encore, comme dans l'exemple de Lévi-Strauss, la présence invisible d'un opérateur, ici l'autre, qui forme la paire. Les recours aux traductions soulèvent aussi la question intéressante de la dualité et qui nous renvoie justement à l'ouverture intrinsèque du « deux » et sur laquelle Lévi-Strauss a tellement insisté. Les Wari, à la différence du terme employé pour « un », tendent au quotidien à recourir aux « deux » directement en portugais. Quand ils sont incités à les traduire, l'expression qu'ils choisissent dans la plupart des cas est « tucucaracan », une face devant l'autre. Dans certains contextes, pourtant, le terme choisi pour « deux » est « tokwan », ce qui signifie « ensemble », mais aussi « beaucoup ». Au moyen des choix des traductions faites par les interprètes indigènes, les Wari sont capables de réintroduire les mondes de la multiplicité des perspectives dans les contextes opposés, ceux du christianisme et ceux de la science. Leurs concepts, sous la forme des mots, produisent des croisements qui, comme le disait Lévi-Strauss, brillent d'une phosphorescence fugitive au milieu de l'étrange monde dans lequel il se voit inséré. Merci beaucoup.